Ce chiour dédié à l'élévation de l'âme de Karen Ruth Lane, Zohar Nevracha. La question de David.
Comment fait-on pour toujours être à la recherche du maître et toujours appliquer ce maître en nous et le garder et pas se voiler derrière une image? Des fois, on veut garder une image de bonhomme correct, etc. Mais comment on fait toujours pour être dans le maître?
Emet. Alors d'abord, la question en français. Comment être dans le Emet? Emet signifie la vérité. Comment être un homme de vérité? Un homme authentique. Ne pas cacher, ne pas mentir, ne pas vouloir le mensonge, ne pas cacher qui nous sommes. Alors d'abord, il faut savoir que, pour ta question, elle est super, super importante. Je ne sais pas si j'ai la réponse, on va essayer ici en parlant. Inspiration divine, Bedrat Hashem, pour le mérite de nous-mêmes et du public. C'est super important. Il est écrit que le Chotam d'Hashem, la signature de Dieu, c'est le Emet, c'est la vérité. Et si Dieu, parmi toutes les choses qui existent dans le monde, a choisi comme signature, comme tampon, son tampon à la vérité, ça veut dire que c'est une chose super primordiale. Et c'est vrai, parce que comme on dit dans la prière de Rosh Hashanah et de Kippour, « Kata Hashem Elohim Emet », car toi, l'Éternel Tout-Puissant, tu es Emet. Ça veut dire que c'est le seul biais par lequel on peut accéder à Dieu. Dieu est Emet, il est vrai. Si on dit qu'il est vrai, ça veut dire que tout ce qu'il y a par lui n'est pas vrai. Il faut expliquer cette notion, que j'explique déjà assez souvent, ici souvent, mais je vais la répéter. La suite du verset qu'on cite dans la prière, « Kata Hashem Elohim Emet, car toi l'Éternel Tout-Puissant, tu es Emet. » Udvacha kayam la'ad. Udvacha malkenu kayam la'ad. Emet kayam la'ad. Et ta parole, notre roi, est vraie et existe pour l'éternité. Est éternelle. Ta parole est vraie et est éternelle. Il y a un rapport très grand entre l'éternité et la vérité. C'est quoi la vérité? La vérité, c'est dire un message. Écrire un message, montrer un message qui correspond à la réalité. Si je souris et je suis malheureux, ou je souris à quelqu'un que je hais et je lui montre que je l'aime, d'accord, c'est un mensonge. Je n'ai pas parlé, mais j'ai exprimé un message qui n'est pas adéquat à la réalité. Si je dis un mensonge, je dis hier j'ai rencontré le Rav Ovadia Yosef. Si dans la réalité je l'ai rencontré, c'est vrai, le message est adéquat à la réalité. Si dans la réalité je ne l'ai pas rencontré, c'est faux. Donc est vrai ce qui est adéquat à la réalité et faux ce qui n'est pas adéquat à la réalité. Donc ce qui est réel est vrai, ce qui n'est pas réel est faux. Un mensonge, c'est une chose qui n'est pas réelle. Ok, alors moi je dis maintenant, je dis que Dieu est vrai. Mais pas que Dieu. Toute chose réelle est vraie. Je dis, c'est une table.
Tu peux rajouter un petit truc? Est-ce qu'on peut avoir un regesh qui est faux?
Est-ce qu'on peut avoir un sentiment qui est faux? Bien sûr. Bien sûr, on va peut-être en parler après. Bon, rappelle-moi après, ça c'est hors de mon développement, mais c'est... Ouais, l'imagination. L'imagination, très souvent, dit des mensonges. D'accord? Bon, peut-être on va en parler, je ne sais pas si on va en parler, mais on va essayer, tu me rappelleras un peu plus tard cette question. Donc je continue sur le développement maintenant. Donc, je peux dire maintenant qu'il y a d'autres choses qui sont vraies. Si je dis maintenant la table, c'est une table. C'est vrai. Pourquoi? Dans la réalité, il y a une table. Tout ce qui est réel est vrai. Tout ce qui n'est pas réel est faux. Maintenant, c'est vrai et c'est faux ce que je dis maintenant. La table, c'est une table. Ok, elle est réelle, c'est vrai. Mais quelle est la teneur de sa réalité? Combien de temps elle va rester, cette table? Quelle réalité est là? Extrêmement éphémère. Combien de temps tient une table moyenne? 20, 30, 40, 50 ans. Ou 50 ans, elle n'est plus là, c'est clair. Je suis, disait l'autre, d'accord? Je pense donc je suis. Ok, tu es. Combien de temps tu es? 120 ans, 130 ans, 140 ans, grand maximum, disparu. La terre est. Je ne parle pas maintenant de l'âme, je parle de nous là. Je pense donc je suis des âmes, on ne le connaît pas. Hein. Pas d'aller voir là-bas une âme te dire je suis coucou. Je pense donc je suis. Non, je parle de nous là. L'univers, L'univers a une fin. Nous disons, l'enseigner, les scientifiques disent, combien disent les scientifiques, le système solaire, combien il a de vie. Au bout d'un moment, l'hélium. Combien ?
On nous dit qu'il existe depuis 15 milliards d'années, mais je ne sais pas.
Non, non, pas l'univers, je parle du système solaire. Le système solaire, il a 4 milliards et demi, voilà. Voilà. La Terre a 4 milliards et demi, le Soleil 5. Il a combien de temps encore à vivre ?
Environ 5 milliards.
Encore 5 milliards. Donc, dans 5 milliards d'années, plus de Soleil. Il y aura une grande naine, boum, et voilà, terminé. Hop, une petite bleue, déjà, une petite bleue, grande
rouge.
Hein ?
Une géante rouge.
Pardon ?
D'abord, une géante
rouge. Supernova, et après ?
C'est terminé.
Donc, il y aura une supernova. Et plus rien. Bon, donc, rien n'est éternel. Donc, chaque réalité que nous pouvons avoir est éphémère. Maintenant, vous me direz 5 milliards d'années. Ok, c'est pas éternel, mais 5 milliards d'années, ça va, c'est un certain temps. Oui, mais par rapport à l'éternité, c'est rien. Combien ça vaut 10 puissance 1 milliard. Donc, 10 puissance 1 milliard, ça fait 10 avec 1 milliard de zéros. C'est un chiffre grand. Hein? Donc, 10 puissance 1 milliard d'années. C'est un grand chiffre. C'est des milliards, de milliards, de milliards, de milliards, de milliards. Je crois que je peux dire, il y a 3 milliards de secondes dans la vie de quelqu'un, si j'en 10 puissance 1 milliard, je dois dire 1 milliard divisé par 9, ça fait 100 000, ça fait 30 pendant 3 ans. Si je ne me trompe pas, si je dis 1 milliard, 2 milliards, 2 milliards, 2 milliards, comme ça pendant 3 ans, j'arriverai au chiffre 10 puissance 1 milliard d'années. Combien ça vaut par rapport à l'éternité ? Absolument rien. Pas un peu. Rien. Mathématiquement, 10 puissance 1 milliard par rapport à l'infini, zéro. Zéro. Infini, c'est infini. Tout ce qui est fini n'a aucune valeur par rapport à l'infini. Donc la réalité, quand on dit une chose qu'elle est émette, elle est vraie, c'est relatif. Tu as un émette, une réalité qui est par rapport à notre monde. Bon, c'est vrai, la table elle est là, c'est pas faux, c'est pas un perroquet, c'est une table, d'accord. Et par rapport à la réalité vraie, éternelle, ça n'a aucune valeur, c'est rien. Or, nous voulons émettre.
On n'a rien pour Dieu.
Alors, on n'a rien pour Dieu, mais Dieu dans sa grande montée à la puissance 10 puissance 1 milliard, d'accord, a voulu nous faire être d'une existence divine. Donc il me permet, par certains actes, de m'unir. Mitzvah, ça signifie union, tzevet en hébreu, tzavta, d'accord, union à Dieu. Comme je dis 40 000 fois ici, Mitzvah, ce sont quatre lettres, mem, tzadik, vav, hei. Les deux dernières lettres du mot mitzvah, les deux dernières sont les deux dernières lettres du nom de Dieu, vav et hei. Et les premières lettres, mem et tzadik, sont en atbash. Atbash, c'est l'alphabet mystique à l'envers. A, aleph, correspond, première lettre correspond à la dernière lettre, taf. Bet, deuxième lettre, correspond à l'avant-dernière lettre, shin. Dalet, kouf, resh, kouf, etc. Gimel, resh, a, at, bash, gardak, etc.
Même sadik, c'est pas deux.
Alors, même sadik en at, bash, dans cet alphabet, correspond aux lettres yud et puis hey, qui sont les deux premières lettres du nom de Dieu. Donc, j'ai yud, ke, vav, ke, les quatre lettres du nom de Dieu. Ça, c'est le mot mitzvah. Quand je fais une mitzvah, je crée une réalité, yud, ke, vav, ke, c'est le nom de Dieu. Le nom de Dieu est traduit en français par l'éternel, qui est la contraction de trois mots. Yud, ke, vav, ke, c'est la contraction de haya, hove, veye, celui qui était et sera. Donc, quand tu fais une mitzvah, tu crées une réalité qui était et sera, éternelle. Éternelle. Dieu, dans sa bonté extraordinaire, me permet de faire des actes dans le monde du fini qui me donnent une réalité éternelle, infinie. Infinie. Extraordinaire, extraordinaire, extraordinaire. Je m'unis à Dieu, c'est extraordinaire, c'est un cadeau énorme. C'est ce sentiment qu'il y a en nous de recherche du Emet. Dieu a mis en nous une réalité qui s'appelle Neshama. On a trois parties, Nefesh, Ruach, Neshama, il y en a encore qui sont encore plus hautes, mais on n'en parle pas. Nefesh, la partie bestiale. Ruach, c'est la partie, c'est nous, en tant que nous, qui avons le choix entre les deux parties bestiales et la Neshama. La Neshama, c'est l'appel divin. Chaque être humain, qui qu'il soit, a cet appel divin. sans connaître Dieu forcément, il a un appel de la vérité. Il a en lui un sentiment de... une sensibilité au sens. Un animal ne cherche pas le sens. Tu n'as jamais vu un perroquet comme ça avec son aile en train de se dire « Pourquoi je vis ?» D'accord ? Ni un chien, ni un âne. Aucun animal. L'être humain, oui. L'être humain est capable de se dire « Pourquoi je vis ?» Et chaque être humain, une fois dans sa vie, se pose la question. Au moins, parce qu'il a la conscience de lui-même. Donc il peut se mettre hors de lui-même, se dire « Qui suis-je ? Pourquoi suis-je là ?» Et la question « Pourquoi ?» elle attend une réponse qui soit « émette ». Une vraie réponse. Très souvent, le nefesh, qui lui est animal et ne s'intéresse pas du tout aux pulsions de la neshama. Donc il y a moi, je suis au milieu, je reçois des pulsions de ma neshama qui me disent « Emet, il y a un sens, réalise-toi vraiment, sois. » Et une partie qui me dit « Laisse tomber, kiff. » C'est le nefesh. Le nefesh, il est animal. L'animal, comme je dis, il n'en a que faire des questions philosophiques et existentielles. Lui, il veut vivre l'instant présent bien. L'animal. Repos maximal, jouissance maximale, pas se fatiguer, pas souffrir. C'est un paramètre extrêmement simple. Plaisir, souffrance, c'est tout, c'est animal. Chaque être humain a bien sûr une grosse partie animale, mais a aussi une petite étincelle divine. Et vu qu'elle est divine, bien qu'elle soit une petite étincelle, elle a quand même un impact qui fait qu'il peut, et chacun aura ça une fois dans sa vie, se poser la question de sens, de vérité. Maintenant, il a le choix. Ou bien il se ment, il se dit, ça me saoule ce genre de question, vive, enfonçons-nous dans la vie animale, tout ce qui est sympathique, ça paye tout de suite, c'est bien. Et un qui a un échamin déjà plus sensible, ou un appel vérité plus grand, ou lui-même veut, il est authentique, et il prend en considération cet appel, se dit, ok, alors pourquoi je vis ? C'était-il un sens ? C'est dommage de passer à côté de sa vie. Et il va y découvrir, il avance, etc. Au bout d'un moment, il va découvrir Dieu. Parce que cet appel de sens, cette vérité, c'est qu'on l'a dit, c'est la signature de Dieu. C'est l'empreinte de Dieu. C'est le signe, par le biais par lequel, le levier, le pont par lequel on peut accéder à Dieu. La vérité. Maintenant, il est évident que pour pouvoir développer, cultiver et garder en nous cette sensibilité à la vérité, il ne faut pas mentir. Quand on ment, on fait passer une chose qui n'est pas réelle, un mensonge, pour une vérité. On dit ce que je dis est vrai. Des fois on dit je te jure. D'accord ? On a l'air très vrai. Un bon menteur, d'accord ? Un mauvais menteur et qui est sensible à la vérité, il ment, ça se voit sur sa tête. D'accord ? Tu prends un petit gosse qui n'est pas encore habitué à mentir. C'est toi qui as mangé le gâteau ? Non, non, c'est pas moi. Pourquoi il regarde là-bas ? Il n'ose pas regarder dans les yeux droits. Quand on ment, on quitte la vérité, on quitte la voie de rectitude. On quitte ce qui est droit, dans un monde qui est tordu. Le visage exprime l'âme. Quelqu'un malheureux, ça se voit. Quelqu'un est heureux, ça se voit. Attends, les yeux, ça montre aussi où tu en es. Quand quelqu'un il te regarde droit dans les yeux et te dit un message, c'est un message droit, vrai. Quand il te dit « c'est pas moi », il n'est pas capable de te regarder dans les yeux, il n'est pas capable d'être droit. Il est pas aimé, il sait qu'il ment, il n'ose pas le faire, il est encore pur et innocent. Donc il regarde d'autre part, tu sais qu'il ment. Il va se recevoir, de façon très non, tout à fait non éducative, une taloche, « pourquoi tu mens ?» Alors il va apprendre à mentir mieux. Dorénavant, il saura comment regarder dans les yeux, « je te dis, c'est pas moi, mais crois-moi !» D'accord ? Le plus authentique qu'il puisse y avoir. Il apprend à mentir. Il sait maintenant que le visage exprime. Donc, ça, c'est les bons vendeurs. Un bon vendeur, il sait te vendre n'importe quoi. Il te fait un argumentaire complètement bidon, d'accord, complètement faux, et tu es convaincu que tu fais un très bon achat. Être malhonnête, ce qu'on appelle en français aujourd'hui la vente, d'accord. J'ai parlé à des vendeurs de vérité. Ils sont incapables d'entendre ce message. Très dur. C'est des gens qui sont tellement habitués dans le mensonge. Le mensonge toute la journée, mentir. Tout ce qu'il faut, je dois gagner. Tout ce que je peux dire maintenant pour gagner, c'est la mitzvah. Donc, je dis non, mon cher ami, il y a autre chose que gagner. Il y a la vérité. Je ne parle pas. Il cherche mon message, qu'est-ce que je veux de lui ? C'est quoi ma déballe que je suis en train de faire maintenant ? Du coup, on est en vendeur. Il croit que je suis un vendeur. Moi, je ne te parle pas, je suis pas moi, je te parle. Emmet, il y a un sens, tu passes à côté. La personne, elle est insensible. Ça, c'est les grands menteurs. Mais nous tous sommes des menteurs. Combien de fois on ment par jour? À chaque fois qu'il y a l'occasion. D'accord. Si on ne parle pas, on n'a pas besoin de parler, on ne va pas mentir. Mais très souvent, très très souvent, on ment.
Quelqu'un, par exemple, qui va me dire, je suis un athémochel, je dis, ouais, mais pour faire bien, genre, pour dire, oh, ça va, je ne suis pas quelqu'un de...
N'importe quoi.
C'est-à-dire, est-ce que la notion de émettre, elle est supérieure à la notion de paix?
Alors, ta question est bien au bon endroit. Est-ce que la notion d'émettre est supérieure à celle de paix? Non. D'après la Torah, il est permis, voire une mitzvah, de mentir pour la paix. Le mensonge interdit, c'est le mensonge intéressé. Quand je veux gagner, quand je veux me protéger, quand je veux préserver mon statut, mon honneur, mon argent, d'accord? Ça, ou quand je veux gagner, je veux flatter quelqu'un, ou vendre quelque chose, d'accord? Je veux attirer sa sympathie, alors je lui fais des salam alek, d'accord? Je le flatte, et comme ça, parce que tout le monde aime bien être flatté, donc il va m'aimer. Là, alors que tout ce que je flatte, c'est même le contraire de ce qu'il est, d'accord?
C'est pour la notion de paix.
Pas de notion de paix. Si je flatte dans un but intéressé. Voilà, monsieur, maintenant, il est riche, j'aimerais bien être un copain avec lui. J'ai entendu parler de lui, de vous, vous êtes très sympa et machin. Là, je suis fait comme ça, pas bête, intelligent, d'accord?
Dans les conflits, c'est-à-dire si on est en conflit.
Alors, maintenant, dans les cas où le but escompté n'est pas gagner, mais établir la paix, c'est une mitzvah. Dieu, dont le nom est Emet, et l'interdiction de la Torah d'effacer le nom de Dieu. Déchirer le nom de Dieu, effacer, c'est un lab de Horaïta. Emet, ils en parlent, on peut, parce que c'est un kinoui, c'est un surnom de Dieu, d'accord? Shalom, on ne peut pas, par exemple, le nom de Shalom, quand il est écrit, on peut pas dans le mikvé ou dans les toilettes dire le mot Shalom, parce que c'est un nom de Dieu. Emet, c'est un surnom. C'est sa qualificatif, c'est sa signature. Dans le nom, il y a sept noms qu'on ne peut pas effacer, qu'on ne peut pas déchirer. Néanmoins, lorsque une femme est soupçonnée d'avoir trompé son mari, et que son mari l'a averti, je ne veux plus que tu t'enfermes quelque part avec ce monsieur, elle s'enferme avec lui néanmoins. À l'époque du temple, on l'amenait au temple, on écrivait un texte, et elle devait jurer qu'elle n'avait pas trompé son mari. Prenez ce texte, c'est un texte de la Torah, dans lequel était écrit le nom de Dieu, et on effaçait l'encre dans de l'eau, après elle devait boire cette eau. Comment est-ce qu'on peut effacer le nom de Dieu? C'est interdit. Si elle boit cette eau et elle trompe son mari, elle meurt. Sinon, au contraire, elle est bénie, elle a des enfants en beau, etc. Alors le fait maintenant de pouvoir vérifier si oui ou non elle a trompé, quelque part, on a une chance de mettre la paix dans le couple. Et aussi, si elle doit mourir, elle doit divorcer, ça sera bien aussi qu'il ne vit pas avec une femme qui lui est interdite. Donc Hachem est prêt à effacer son nom pour établir la paix entre le mari et sa femme. Donc ça veut dire que la paix est très importante, plus que la vérité. Donc moi j'ai vu des grands de Torah, le Rabbi Yisrael Bachaoui, il a dit, son fils m'a dit, qu'un jour son père lui a dit, ça fait 38 ans que je n'ai pas sorti un mensonge de ma bouche. 38 ans, que nous on tienne 38 heures, d'accord, 38 ans. Mais j'ai vu moi une fois même au téléphone mentir, d'accord. Pourquoi? Pour le shalom. Donc des grands d'Israël, que sa bouche c'était une bouche sainte, il disait un mot, ça se réalisait, d'accord? Pardon? C'est le désir. Si Dieu dit.
Oui, mais ils appellent ça un mensonge. Quand il a dit, il vous a dit, j'ai pas sorti un mensonge plus 38 ans.
C'est pas un mensonge. Ça c'est une mitzvah. C'est pas un mensonge. La Torah quand elle dit pas on peut mentir, elle dit on peut modifier pour le shalom. Bon, modifier, ça veut dire mentir, d'accord? Mais c'est pas je dis mentir. Alors on dit modifier. Mais c'est pas un mensonge.
Se mentir à soi-même, c'est comme...
C'est quoi se mentir à soi-même?
C'est-à-dire on fait quelque chose et on...
C'est faux aussi, on ne doit pas faire ça.
C'est un mensonge.
C'est pour gagner, pour qu'on se mente à soi-même.
C'est beau.
À un moment, je vais arriver, d'accord? Donc le Rav, lui-même, j'ai entendu, pour la paix, dire une chose qui n'est pas vraie. On voit que Aaron à Cohen, il était Ohev Shalom, Rodev Shalom. Il aimait la paix et poursuivait la paix. Comment il faisait? Lorsqu'il y avait deux juifs qui se détestaient, Rouven et Shimon. Et voilà, Rouven, il dit, tu sais, j'ai vu Shimon, le pauvre. Il est triste, il est en déprime. Pourquoi? Il sait qu'il t'a fait du mal, il s'en veut terriblement. C'est complètement faux. Il n'y a rien à faire, Shimon. Après, il allait voir Shimon, il dit, tu sais, j'ai vu Rouven, le pauvre, il est très mal. Qu'est-ce qu'il a? Il sait qu'il t'a fait du mal, il s'en veut terriblement. Il sait que c'est lui le coupable. Et deux se voyaient dans la rue, Shimon, Rouven, et ils s'embrassaient. D'accord? Attends. Donc, Aaron allait et mentait aux deux pour établir la paix entre les deux. Donc, on voit qu'il y a une mitzvah de mentir pour la paix. Parce que le but, le mensonge en tant que soi, il est dangereux. Mais si maintenant le but escompté, il est bon, la fin dans ce cas, attention, elle, elle, elle légitime les moyens. On peut, pour la fin qui est la paix, utiliser le moyen qui est le mensonge. Mais attention, il ne faut pas que ça nous habitue à mentir. Et là vient le danger. Quand on ment, pour même des choses infimes, on s'habitue à se mentir à soi-même. Ça revient à ce que vous voulez me poser comme question. C'est quoi se mentir à soi-même maintenant? J'ai maintenant deux options. L'option désir de Dieu, autre option désir de mon nefesh, ma partie animale. Donnez-moi un exemple.
J'ai faim.
Quoi, les femmes?
Non, j'ai faim.
T'as faim?
Partie animale.
Je veux un sandwich. Je vais aller à la pizzeria. Pour me détendre.
J'ai envie.
Voilà, tu veux maintenant aller t'acheter un bon hamburger, d'accord, en ville, un endroit qui n'est pas très... Bon, on va dire un hamburger, voilà, la cache-croûte n'est pas géniale, ok. Et je te dis, oh, halt, cache-croûte n'est pas géniale, puis en plus, hamburger, tu peux t'en passer, quoi, c'est pas... C'est une pulsion animale d'envie. La partie animale dit, ah, mais t'as vu la tête du hamburger? Qu'est-ce que vous racontez maintenant? Et puis, bon, ça va, c'est cachère. Puis, c'est pas cachère, ça fait la faute du rabbin, c'est marié à un herscher, d'accord? C'est un mauvais herscher. Mais ouais, mais c'est pas un menteur, le rabbin. Débat. Argumentation. Maintenant, du point de vue émette, c'est clair que c'est un échama qui a raison. Elle est émette. Toi, maintenant, t'as plusieurs solutions. Ou bien le message de l'échama est tellement émette que tu dis, tu me saoules. Quand un type vient te dire, maintenant c'est pas bien, tu l'envoies balader, laisse-moi tranquille. Ou bien non, tu développes un argumentaire. Écoute, c'est vrai, et moi maintenant je suis faible. J'ai besoin de force. Pour m'étudier la Torah, un hamburger comme ça, c'est une mitzvah. Même que le chalet n'est pas très bon, je vais faire prendre une Torah d'enfer, et ça, et au contraire, c'est une mitzvah. Et il se crée un argumentaire faux. Mon exemple n'est pas génial, mais chez nous, c'est quotidien. Parler à Shonara, c'est un très bon exemple. Quelqu'un maintenant, tu as l'occasion de parler sur lui à Lashon Hara. Ça te démange. Interdit. Maintenant, il y a des hétérim, des autres façons de parler Lashon Hara. Quand il y a un but utilitaire, intelligent pour le bien. Alors toi, tu vas dire, bon, non, mais dans ce cas-là, maintenant, c'est une mitzvah de parler. Et tu fais un beau Lashon Hara, super interdit, en t'ayant fait un argumentaire complètement faux. C'est mis ça de parler dans ce cas. La vraie raison que tu veux parler, c'est parce que tu l'en veux, et tu as envie de parler, d'accord? T'en as gros sur le cœur, et tu as envie maintenant de l'enfoncer. Maintenant, tu n'oses pas te l'avouer, parce que ce n'est pas joli, alors tu crées maintenant un argumentaire qui est faux. Plus une personne dans sa vie fera attention à ce qu'elle sort de sa bouche en tant que vérité et mensonge dans les choses anodines de la vie, plus qu'elle fera, elle devra maintenant, en elle-même, choisir en deux argumentaires, celui de la vérité et celui du mensonge, du grand menteur qui a en lui le serrera le nefesh, d'accord, il saura utiliser, entendre le message de vérité beaucoup plus fort. Si lui-même se ment toute sa vie, alors même qu'on lui propose maintenant un message de vérité, c'est égal, c'est pas de valeur. Le message qu'on dit, il est important. Regardez. Pourquoi c'est tellement dur aujourd'hui de travailler sur la vérité? On vit dans un monde de mensonges terribles. Les médias. On est entouré de médias sans cesse. Médias visuels, auditifs, les journaux, Internet, les pubs. J'ai raconté souvent ici sur Internet. Alors un jour, je suis chez moi et je vois ma fille en train de boire un café comme ça et elle feuillette avec beaucoup d'intérêt. Un journal que de pubs. C'est un truc du quartier comme ça, que des pubs. Et avec beaucoup d'intérêt, regarde chaque tout ça, je dis, dommage. Quoi dommage? C'est du mensonge. Quoi mensonge? Je te défie, je ne dis chez elle, beaucoup d'argent pour elle, si tu me trouves une pub où il n'y a pas un mensonge. Elle, impossible. La meilleure pizza de la ville. Il y avait une pub sans texte, perruque. Mais il y avait une image de perruque. Waouh, waouh, waouh. Donc, quand la bonne femme, elle voit ça, elle se dit, tu vois qui je vais être? Le genre de perruque que nous vendons. C'est pas du tout, c'est une image de perruque. C'est pas du tout le perruquet qu'elle a et absolument rien. On fait même pas attention à ça. Tous les messages que vous voyez de publicité, tous sont mensongers, tous. Il y a pas de, c'est pas possible de faire une pub qui soit vraie. Parce que c'est une non-pub, d'accord ? Comment ? Vas-y.
Sur Internet, si on fait un site et on met nos, ouais, nos photos à nous qu'on fait.
D'accord. Donc, et tu vas mettre. Tu vas mettre quoi ? Goûter nos excellents gâteaux. Qu'est-ce que tu vas mettre ? Tu vas mettre un petit texte, quelque chose, non ? Ouais. D'abord, un éclairage. Parce que le gâteau, tu ne peux pas le gâteau sur la table. Tu le prends avec un éclairage de côté, avec un peu de fondant, c'est vrai, c'est avec un accompagnement.
Ouais.
Pourquoi est-ce que sur les boîtes de nourriture, ils mettent une photo de ce qu'il y a dedans ? Ils disent l'image n'est que à titre comment il dit là-bas, hein, c'est une image de suggestion, mais pas du tout, voilà. Parce qu'ils savent très bien qu'ils racontent un mensonge. Après on les a tuqués, on peut les attaquer. On vous montrer une image, vous verrez, c'est pas du tout comme ça. On n'est pas attaquable. On te dit c'est un mensonge, c'est un mensonge, d'accord. Mais ils parlent. Tu sais, on est tellement habitué à cela, on vit dans le monde de mensonges sans cesse. On ne parle pas des informations. Je connais une jeune fille, elle mère de 10 enfants bientôt aujourd'hui, d'accord, elle était journaliste. Elle inventait un journal, gala, un truc, je ne sais pas, un journal de Paris, des trucs comme ça. Elle inventait sur ses artistes des trucs, n'importe quoi. Qu'elle inventait même pas le mot pour la question. Et eux, ils font pas de point. Ils sont contents. Il y a un article sur nous dans le journal, d'accord. Un tel est sorti avec machin. Il y a eu un scandale. Il a tourné mal. Rien. Tout inventé de A à Z. Tout inventé. Les gens, ils lisent. C'est passionnant et tout ça. C'est du mensonge de A à Z. Et nous, on vit dans ce mensonge toute la journée. Il est très, très dur d'arriver à se défaire, à être émette. Mais il y a un travail à faire là-dessus.
Quand vous parlez justement même du mensonge presque de vérité, parce qu'il y a un mensonge de vérité, mais qu'il y a un mensonge qui est autorisé, quand c'est de manière désintéressée et que ça apporte justement
la paix. Je dis, c'est délicat, c'est dangereux, il ne faut pas qu'on s'habitue.
Est-ce qu'en réalité, malgré tout, il n'y a pas une certitude, parce que le mensonge, c'est une fuite de la réalité. C'est-à-dire que je fuis la réalité comme elle est. Mm-hmm. Parfois, si justement je suis jusqu'au boutiste de la vérité, c'est-à-dire que je sais la vérité, je suis droit vis-à-vis de la vérité, même vis-à-vis de mon collègue ou quoi que ce soit, je sais que je vais peut-être le rentrer dedans sur le moment,
non.
Peut-être que ça va être mal pris,
non.
Mais je suis
Non.
Je suis dans cette recherche justement de émettre ou quoi que ça, peut-être qu'aujourd'hui il lui réagit comme ça, mais avec le temps il comprendra cette situation-là. Si moi je ne vais pas réagir quelque part, je fais continuer le mensonge.
Il faut savoir.
Est-ce que je dois faire continuer le mensonge,
oui.
Ou alors justement réagir.
Alors il y a des gemaras dans Ktubot.
Voilà, émettre. Un jour il comprendra que cette situation-là, eh ben, en fait, l'a fait progresser, que c'était une situation d'émettre et pas une situation de
alors,
continuer
tout,
la
tout,
chose.
Je vais t'expliquer, tout dépend du cas.
C'est dur.
On finira avec ça parce qu'on est très pressé. La semaine prochaine, bien on va étudier la Gemara Ktubot Perek, le chapitre 2. Là-bas, il est écrit Machloket en Bet Shammai et Bet Hillel. Une mariée l'aide. Bet Hillel lui dit, on dit au Khatan, t'as une mariée qui présente bien. Bet Shammai disent, on dit rien, parce qu'on ne peut pas mentir, la Torah dit qu'on ne peut pas mentir. Bet Hillel rétorque, quelqu'un qui a acheté maintenant quelque chose dans le marché. Il a acheté un article. Et, t'as vu, j'ai acheté, c'est bien, hein? Tu lui dis c'est un truc mauvais, tu lui dis non c'est bien. Tu lui dis non c'est bien. La Gemara ne discute même pas là-dessus. C'est évident qu'il faut lui dire que c'est bien. Il a déjà acheté, qu'il faut lui dire, tu vas le rendre triste. Ça va rien changer. Qu'il soit heureux de ce qu'il a. De là, déduit la Gemara, il faut être toujours, le terme utilisé c'est que nous soyons mélangés au public. C'est-à-dire qu'on doit être agréable aux gens. Quelqu'un qui est trop émette, il dit, moi je suis émette, je dis tout à tout le monde. C'est un rachat. C'est faux. C'est faux. C'est pas ce que veut la Torah. La Torah demande une gentillesse maintenant. Il y a des fois où il y a Moussa de Tochecha. Il faut aller corriger la personne. Mais comment on corrige ? Il faut faire avec un sentiment très très pur, d'amour très grand pour l'autre, lui dire très délicatement et très gentiment, avec beaucoup de compliments avant, beaucoup de compliments après, et on espère que ça passe. Et une personne qui m'est proche. C'est très dur d'être honnête avec quelqu'un, lui dire ses problèmes qu'il a. D'habitude, on met en orbe de chocolat. Et on laisse comme ça. La Torah préfère la paix que le émettre.
Mais sur la Gemara dont vous parlez, c'est justement sur le fait qu'elle est belle, on dit justement qu'on peut le prendre sur le fait de, par exemple, ses traits de caractère ou ses midot.
Non, on parle de son physique. Na'a ve chasuda. Na'a, elle est belle, chasuda, elle a de la grâce.
Tu peux la voir belle d'une autre manière.
Non, on parle de beauté physique.
De dire le émettre à quelqu'un à partir du moment où on n'a pas une définition du émettre immuable, du plus gros. Et plus
en plus, lui de dire que tu te trompes quand il te trompe, il peut te dire que tu te trompes complètement. C'est vrai. Donc, la Torah demande, dans la relation avec les autres, d'être comment dire, ça veut d'être en bonne relation avec les gens. Une relation qui soit bonne, agréable, d'accord. Des fois, on peut être émette, mais très délicatement. Mais si, oui. La Torah préfère la paix, absolument. Attends, pourquoi? Parce que ça paie entre les gens. Attends, quand le piège est que tu dis, si c'est comme ça, je peux aussi mentir pour gagner. Et là, c'est interdit. Et quand on ment pour gagner, pour finir dans les débats qu'on aura à l'intérieur de nous-mêmes, entre la vérité et le mensonge qui est en moi, c'est le mensonge qui va gagner. Parce que j'ai un intérêt à mentir. Et quand j'ai un message de vérité, j'ai mon intérêt à mentir, je fais passer mon intérêt avant la vérité. Je m'excuse, mais on doit arrêter la petite 5 minutes déjà. Bah, ouf, Adonai, l'homme, amen.